Bon, ben, je vais faire bonjour à tout le monde. D'abord, je vais faire le modérateur adjoint, si je peux dire. Donc, au moins, en attendant, présenter, je dirais, depuis le fond de la salle, Christopher Priest, le Christopher Priest, accompagné de Lionel Davous, qui va être son traducteur. Mélanie Fazi, qui est auteur en particulier de nouvelles de fantastique extrêmement remarquées et qui figure régulièrement dans les palmarès de prix. Sylvie Lainé, elle aussi novelliste remarquée, remarquable, qui vient de gagner le Grand Prix de l'Imaginaire cette année, qui lui a été remis à Saint-Malo. Et donc, et moi-même, Jean-Claude Dudiac. Voilà, alors, comme ça, on aura gagné du temps par rapport à l'arrivée de. Voilà. Ben c'est parfait. J'ai fait l'introduction à ta place, donc tu peux y aller. Donc Sylvie Miller, la nouvelle, tu en penses quoi? Et notre modératrice de choc, Sylvie Miller, qui est écrivain et qui se caractérise par des livres d'un humour que je qualifierais de loufoque et absolument délicieux, et que vous retrouverez au sommaire de l'anthologie Troll et Licorne du festival.
Donc, merci beaucoup à Jean-Claude pour avoir fait une partie de mon travail. C'est bien de pouvoir compter sur les copains. Tu devrais animer des tables rondes de temps en temps. Bien. Donc, nous allons parler d'une forme courte, donc la nouvelle. L'art de la nouvelle, c'est le thème de cette table ronde. Donc, les quatre auteurs présents à cette table ont tous. Alors, certains sont vraiment novellistes de façon presque exclusive. D'autres ont également touché à la fois au roman et à la nouvelle, à la forme courte. Alors, je voulais commencer par interroger Christopher Priest. Vous qui avez à la fois travaillé sur des romans et sur des nouvelles, est-ce qu'on écrit un roman comme on écrit une nouvelle?
Bonjour. I have to speak in English, for which I apologize. Is this working?
Yes.
Yeah, good, okay. Yes, most of what I write is novels. Most of what I enjoy writing is novels. I see short stories as a real challenge and not at all an easy option. I've spent most of last year struggling with a short story, which I tried to finish, and I never could, and I had to abandon it. And that is not at all an untypical problem for me. At least one of my novels has been written quicker than at least one of my short stories. That gives you some idea of the amount of labor for every word. But I do think that in the world of fantastic, that the short story has a unique importance. As far as I know, certainly in the English language, it's the most concerted, concentrated market or readership for short stories. It's not a beginner's market or anything like that. It's a very sophisticated market, and it's something we should cherish and encourage.
Crispis nous dit, je suis navré, je suis obligé de parler en anglais, ce pourquoi je vous présente mes excuses. La plupart des choses que j'écris et que j'aime écrire sont des romans. Pour moi, une nouvelle représente toujours un défi. Et c'est pas du tout, au contraire, la solution de facilité. Par exemple, pour la plus grande partie de l'année précédente, j'ai lutté pour essayer de terminer une nouvelle et j'ai pas réussi. D'ailleurs, j'ai fini par l'abandonner. Ce qui est pour moi d'ailleurs un problème assez typique. Il y a au moins un de mes romans qui a pris moins de temps à écrire qu'au moins une de mes nouvelles. C'est pour vous dire la quantité d'efforts et de travail qui va pour essayer d'arriver à coucher chaque mot. Mais je pense que dans le monde du fantastique et de l'imaginaire, la nouvelle a une importance unique. Pour ce que j'en sais, en langue anglaise. En tout cas, ça fait partie des marchés les plus concentrés. Avec le lectorat, parmi les lectorats les plus sophistiqués, c'est celui de la nouvelle. Donc c'est véritablement une tradition, je pense, qu'il nous faut chérir et qu'évidemment nous apprécions.
D'accord. Jean-Claude, toi qui as écrit à la fois nouvelles et romans, quel est ton sentiment sur cette question-là ?
On n'écrit pas du tout la même chose quand on écrit des romans et des nouvelles, parce que la gestion de l'information est complètement différente. Et le problème de la nouvelle, c'est essentiellement de comment entortiller l'information pour en mettre plus qu'il n'y a physiquement la place dans les mots d'en mettre. Donc on fait des creux, on perd du temps en essayant d'en gagner, on fait un travail de géométrie un petit peu bizarre, on fait quelquefois des détours dans l'univers d'à côté. Enfin, c'est véritablement de la géométrie hyperspatiale dans l'univers de l'information. Un roman, ben, ce sont des gens qui font des choses, pour moi. Et tous les romans que j'ai écrits, c'était je mets un décor, je mets un univers, je mets une société, il n'y a aucun problème. Mais avant toute chose, j'ai des gens qui vont faire des choses. Et donc l'information, j'ai ces gens qui me servent à la montrer. Alors que dans une nouvelle, quelquefois, il n'y a même pas de gens, il n'y a même pas les bonnes personnes avant même que, enfin, au moment même où j'aurais besoin que quelqu'un soit là pour regarder ce qui se passe. Donc je gère l'information. Et personnellement, c'est une chose que je fais depuis le tout début. J'ai commencé par écrire de nouvelles, je n'arrêterai jamais d'écrire de nouvelles, parce que arriver à replier une histoire très très serrée, faire un petit Scooby-Doo pour qu'à la limite, dans l'esprit du lecteur, elle se déplie pour devenir une fleur encore plus grosse qu'on peut l'imaginer, alors qu'à l'origine, c'est une petite graine. Ça, c'est un véritable bonheur pour moi.
D'accord. Alors, Sylvie, notamment, dont je ne sais pas si tu as parlé de son prix sur l'opéra de Chaïa, donc GPI 2015, prix Bob Morane 2015, donc vraiment très, très... Ouais. Donc, Sylvie, par contre, là, chez toi, on est face à un écrivain qui est vraiment implanté sur le genre de la nouvelle. C'est un choix. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cet univers-là spécifique sur ces formes courtes ? Et je poserai la même question à Mélanie, puisque Mélanie aussi est beaucoup plus à l'aise sur la nouvelle que sur le roman, j'ai l'impression.
Je pense qu'au départ, c'est parce que je suis une amatrice de nouvelles, que j'en ai beaucoup, beaucoup lu. Alors, il y a des romans que j'ai adorés, autant que les nouvelles. Mais au moment d'écrire, je pense que ça tient à la tournure d'esprit qu'on a. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime tellement passer du temps sur le perfectionnisme et le souci du détail. Je suis plutôt quelqu'un qui aime aller vite. C'est comme ça que je travaille. J'aime bien la synthèse, la vue d'ensemble, l'émotion générale, et la forme de la nouvelle me convient très bien parce que l'économie de moyens et la forme d'élégance et toutes les exigences que ça impose sont des exercices que j'adore. Je peux pas dire si je saurais écrire des romans parce que j'ai à peine essayé et je sais que je ne suis a priori pas douée pour ça. Ce qui confirme le fait que c'est sans doute extrêmement différent comme exercice.
Je suis d'accord pour dire que c'est certainement très différent. Puis je rejoins ce qu'ont dit Sylvie et Jean-Claude sur pas mal de choses. Ce qui, moi, me tend à prouver que c'est très différent, c'est que j'ai écrit deux romans un peu par accident, qui sont des nouvelles qui sont développées presque malgré moi. Et on m'a déjà fait la remarque que j'écris mes romans comme des nouvelles. Donc je pense que fondamentalement, il y a quelque chose de très différent et que je n'ai pas saisi comment on fait un roman. Ce que j'en comprends, c'est qu'un roman, c'est vraiment quelque chose qui se développe d'une manière très différente sur un long terme, qui est un type d'évolution dans le temps, qu'on doit apprendre à rebondir, à développer les choses de plus en plus. Et moi, j'aime les condenser, en fait. Ce que j'adore, c'est si je peux décrire un personnage en trois phrases, mais trois phrases très précises, vraiment très définies, et qui font que le lecteur va le voir, ce personnage, pourquoi est-ce que je m'ennuierais ? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de faire cette description sur 10 pages. Alors, il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'adore, c'est un peu comme ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, le texte replié comme un Scooby-Doo, je ne sais plus la phrase exacte, mais voilà. C'est, en fait, une nouvelle, c'est un peu comme le TARDIS, je suis en train de penser. C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est faire un texte qui soit très court, très ramassé, mais qui en réalité contienne énormément de choses entre les lignes. Qui soit presque un moment d'une vie condensé en quelques pages. Moi, c'est pas tellement une histoire sur des années qui m'intéresse, c'est un moment particulier, une situation, un personnage qui est pris à un moment clé. Et voilà. Et suggérer énormément avant, pendant, après, entre les lignes. J'avais jamais pensé à l'idée du tardisme, en fait, c'est assez juste quelque part.
Et en fait, de mon point de vue, une nouvelle, on peut dire qu'une nouvelle est vraiment réussie si vous mettez plus longtemps à la raconter que vous mettrez à la lire. Ça veut dire que l'auteur a réussi à condenser quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. En plus, il y a une différence énorme entre un roman et une nouvelle pour moi. Un roman a besoin de ce qu'on appelle une méta-histoire. C'est-à-dire que vous avez une histoire qui se déroule pendant le roman, qui est l'histoire du roman, l'histoire des personnages, enfin, etc. Et vous avez toute une histoire autour, qui est l'histoire de cette civilisation qui se passe, qui est complète. Donc une histoire englobante, dans laquelle l'histoire que vous racontez n'est qu'un détail, ou que l'endroit où vous avez envie de mettre le projecteur. Dans une nouvelle, c'est l'inverse. Vous avez l'histoire de la nouvelle, et vous avez des histoires infra, c'est-à-dire celles qui se passent par en dessous, celles qui, je dirais d'une certaine façon, font grenouiller un petit peu l'histoire d'origine, qui n'est pas une histoire englobante du tout, qui est plutôt une couche inférieure, presque qui vous chatouille les pieds pendant que vous marchez sur la nouvelle. Donc, dans un cas, vous avez le développement extérieur et vous avez un tout petit élément sur lequel vous focalisez, c'est un roman. Dans l'autre cas, vous avez une histoire et à l'intérieur de cette histoire, vous avez fait pousser des choses.
Alors, comment on structure une nouvelle ? Puisque là, on est en peu de mots. Il faut arriver à créer un décor, poser un environnement, poser une ambiance. Et comment est-ce qu'on arrive à, pareil, construire des personnages, puisqu'on a finalement peu de mots pour faire ressentir l'essentiel de ce que vous avez besoin d'installer ?
Pardon, je te laisse après. Moi, j'ai tendance à dire, je fonctionne de manière très instinctive dans l'écriture. Quel que soit l'exercice. C'est-à-dire que pour pouvoir commencer un texte, il faut que je le sente. C'est pas juste, tiens, j'ai une vague idée d'histoire, on va voir où elle part. Mon personnage, je l'entends, je le vois, je sais qu'il est là. Et je pense qu'en fait, ce qui fonctionne dans une nouvelle, en tout cas pour moi, c'est ça, c'est quelque chose qui se fait entre les lignes. C'est dans ma tête, c'est presque inconscient, c'est ce personnage, je le sens. Je vais le faire ressentir parce que je mets des choses entre les lignes. Et parce que peut-être je vais visualiser. Moi, je suis très visuelle aussi, j'ai besoin de détails. Je trouve qu'un personnage se décrit facilement par quelques détails, mais à condition qu'il soit vraiment parlant. Et pour un décor, c'est la même chose. Ça ne va pas être dire, alors voilà, on a une maison, elle est grande, il y a autant de pièces, il y a X escaliers, elle est de cette couleur, etc. Quel est le détail ? Le détail qui fait que cette maison est différente de la voisine ? Le détail qui fait que quelque chose est étrange ? Pour moi, la nouvelle, c'est en particulier un travail vraiment sur le détail. Mais c'est pas n'importe quel détail, c'est le détail parlant, le détail qui va déclencher quelque chose dans la tête du lecteur qui dit « Oh, il se passe quelque chose », ou qui va ancrer peut-être un visuel vraiment dans leur tête. Et je crois que je me suis écartée de la question, je ne sais plus, mais je vais laisser Sylvie continuer, je crois qu'elle avait « construire ». Mais pour moi, je ne construis pas dans le sens où c'est instinctif. C'est au moment où je vais écrire, je sais ce que j'ai à écrire. Et justement, construire, pour moi, c'est peut-être plus une démarche de roman. Peut-être pour ça que j'y arrive pas d'ailleurs. C'est quelque chose de plus réfléchi, je le perçois comme plus réfléchi en tout cas. Et
Sylvie, oui, on parlait du tardiste tout à l'heure. Moi, j'avais envie de faire une analogie avec le bain de mer. Il y a plusieurs manières de profiter de la mer quand on est à la plage. Il y a une forme qui consiste à rentrer très lentement dans l'eau en se mouillant, en s'habituant à la température. Pour moi, ça, c'est exactement l'approche du roman. On vous introduit lentement dans un univers qu'on vous explique, qu'on vous présente, et ça favorise une immersion agréable, mais en tout cas qui prend son temps. La nouvelle, c'est le plongeon. On y est d'un seul coup. On n'a rien présenté à l'avance, on n'a rien expliqué, et on se retrouve directement au cœur de l'histoire, et du coup, tout ce qui constitue le décor et l'environnement de l'histoire... C'est directement le ressenti du personnage au moment, mais rien n'a été exposé à l'avance. Je pense qu'on peut s'épargner un travail d'exposition. C'est à peu près la même chose que ce que disait Mélanie.
J'ai déjà répondu à ça en rencontre scolaire en disant « Pourquoi vous écrivez des nouvelles ? Parce que je suis une feignasse, en fait, et que j'aime bien sous-entendre les choses plus que de prendre le temps de les décrire. »
Et moi, je dis « C'est parce que je suis myope, donc j'ai du mal à avoir une vue d'ensemble décrivant par le menu tous les aspects. Je ne vois que ce qui m'intéresse pour l'histoire. Et du coup, le lecteur aussi ne voit que ça.
Je voulais ajouter un truc, c'est que j'ai animé plusieurs fois des ateliers d'écriture et une des choses que j'ai essayé d'apprendre et que de temps en temps, ils avaient du mal à intégrer ça, c'est de par rapport à un roman qui va plus poser le décor. Donc, je leur ai dit à un moment donné, commencez au milieu de la scène. S'il y a un dialogue, commencez au milieu du dialogue. Ne commencez pas par me dire, il pleuvait ce jour-là sur Paris, il pleuvait. Commencez pas par la météo. Vous commencez au cœur de l'action. Et cette idée de commencer au milieu du dialogue, j'ai pas réussi à leur faire faire. Ils comprenaient pas. Enfin, ils commençaient au début du dialogue. Et quand je voyais la scène, je leur dis, mais non, on peut tout à fait couper. Vous coupez le début. Et le lecteur est projeté et catapulté là-dedans et se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et je trouve qu'une nouvelle est d'autant plus frappante qu'on arrive justement à... On arrive vraiment à plonger le lecteur au milieu des choses déjà.
Alors Jean-Claude, L'instinct du troll, donc le dernier recueil que tu as publié, c'est en fait quelque chose d'un peu particulier, puisqu'en fait c'est une espèce de roman en quatre épisodes, donc c'est quatre textes qui sont individuels, mais qui sont reliés.
Enfin, ils ne sont pas individuels, ça s'appelle un fix-up dans le terme. Et beaucoup de livres de science-fiction, en particulier d'âge d'or, ont été conçus comme ça, l'un des plus célèbres étant Fondation d'Isaac Asimov. Et mon but, en fait, c'est j'ai une vraie histoire qui se passe en quatre très longs chapitres, et ce sont plus quatre respirations que quatre histoires autonomes. Elles ne sont pas autonomes. Quand vous arrivez à la troisième, si vous n'avez pas lu les deux premières, vous allez avoir du mal. En fait, c'est la même histoire découpée en quatre tranches. Le truc, c'est que ce sont d'abord des longs passages, ce sont des novellas, et c'est à chaque fois quelque chose dans lequel je me dis, je vais au bout d'un des épisodes. Je le considère comme une série en quatre épisodes, si tu veux. Et il faut terminer chaque épisode à un moment donné dans lequel à la fois on a le sentiment qu'on est arrivé à un endroit mais qu'on va en repartir tout de suite. Et donc la deuxième nouvelle repart exactement de là avec les mêmes personnages et c'est comme un roman en quatre chapitres. C'est plus parce que je regarde beaucoup de séries aussi en ce moment et parce que je relis mes anciens livres. Donc le mélange d'Asimov et des séries télé a entraîné ce genre de structure. Mais pour en revenir à la question que tu posais sur comment structure-t-on une nouvelle, en fait, c'est assez facile, au sens où dans une nouvelle, vous devez avoir une histoire, vous devez avoir un ou plusieurs personnages, vous devez avoir une tension, vous devez avoir un enjeu, vous devez avoir un décor, au moins un minimum, vous devez avoir tout ce qu'on appelle un sensorium, des odeurs, des bruits, du toucher, etc., etc. Vous devez avoir quelque chose qui est une espèce de sous-couche, presque mythopoétique, expliquant en fait d'où vient votre histoire. Vous devez aussi avoir un ensemble de surprises, vous devez avoir au moins un, peut-être deux basculements, au moins une et souvent deux scènes dont on se dit ça c'est emblématique, au moins une première phrase, au moins une dernière phrase, etc. Donc on met tout ça dans un sac et on secoue, et quand ça commence, les morceaux commencent à tenir les uns avec les autres, on a une nouvelle en fait. Mais c'est juste arriver à mettre plein de choses dans un espace qui n'est pas prévu pour. C'est un peu comme si on jouait à Tetris avec trop de pièces. Et quand on y arrive, eh ben, ça donne une nouvelle.
Alors, parlons un peu de l'espace de publication pour les nouvelles. Donc, en général, les nouvelles, soit on les publie en recueil, soit on a une nouvelle dans une anthologie, soit on publie dans une revue. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'espace en France pour la nouvelle ?
Tout de suite les questions qui fâchent, disais-je, loin du micro. Beaucoup d'espace, moi je suis là depuis 15 ans. C'était déjà compliqué il y a 15 ans, c'est par période en fait. Il y a des moments où il y a des éditeurs qui vont lancer des collections d'anthologies, puis ensuite, ça, en général, ça ne fait pas un carton absolu, donc les collections ferment ou s'arrêtent. Non, le marché n'a jamais été... Oui, j'ai une espèce de frustration, c'est que je suis persuadée que le public de la nouvelle en France est beaucoup plus vaste en réalité qu'on ne nous le dit. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vendre commercialement. Mais en 15 ans, j'ai rencontré beaucoup plus de lecteurs amateurs de nouvelles qu'on m'avait dit au départ. On m'a toujours dit, les lecteurs n'aiment pas ça. Je constate que si, après, il y a un problème qui est, alors, créer des collections, les rendre rentables, etc. Le boulot des éditeurs, mais les éditeurs sont toujours un petit peu réticents ou en tout cas très très prudents, je vais dire, quand ils publient des recueils de nouvelles ou des anthologies. Parce que l'expérience démontre que ça se vend rarement. Il y a des exceptions, mais elles ne sont pas très nombreuses. Donc oui, c'est un domaine qui est assez difficile. Oui. Au point qu'en arrivant, moi, je suis arrivée en voulant écrire des nouvelles, et tout de suite, on a essayé de me dissuader de ne faire que ça. Il se trouve que je ne savais pas faire autre chose, donc je me suis obstinée, mais pendant des années, on a essayé de m'en dissuader. Je pense que Sylvie a eu la même expérience.
Ah, tout à fait. Moi, on me dit régulièrement, mais de toute façon, si tu n'écris que des nouvelles, tu resteras toujours un auteur confidentiel, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais moi, ça me surprend beaucoup. Enfin, les éditeurs ont des chiffres qui témoignent du fait que la nouvelle n'a jamais ne permet pas d'avoir de grands succès commerciaux. Ça, c'est assez évident. On voit bien aussi fleurir. Non seulement des ouvrages de plus en plus énormes, mais qui, de plus en plus fréquemment, sont des cycles de 3, 4, 7, 12 volumes. Donc, apparemment, il y a une grosse demande pour... c'est peut-être le bain dont je parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de lecteurs qui ont envie de découvrir un univers, et quand cet univers leur plaît, ils ont envie de pouvoir y passer des journées, des semaines, des mois peut-être... mais on en oublie un petit peu d'autres types de plaisirs littéraires en France, en tout cas, parce qu'aux États-Unis la nouvelle est quand même assez couramment lue. Et moi, c'est une chose qui me surprend beaucoup, parce que le format papier des recueils ou des anthologies est souvent assez peu encombrant, donc facile à transporter. La longueur des nouvelles se prête bien au transport en commun, à tout un tas de circonstances où souvent c'est les petits creux où on peut lire. C'est plus facile de lire une nouvelle que de lire la moitié d'un chapitre d'un ouvrage qui en comporte 72. C'est un mystère.
Quand tu disais c'est impossible de faire un succès avec une nouvelle, avec un recueil de nouvelles, alors dans l'absolu, oui. Il y a un cas de figure qui m'a toujours vraiment interpellée, c'est le succès d'Anna Gavalda, puisque son premier roman, ce premier livre qui est sorti vraiment de nulle part et qui a cartonné, était un recueil de nouvelles, qui en plus, moi je l'avais adoré, j'ai pas lu ce qu'elle a fait d'autre, mais il se lisait vraiment d'une traite et c'était un très chouette bouquin. Donc, le public existe, c'est possible. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Bon, nous on a la question du genre en plus, c'était hors genre. Je sais pas, mais je reste persuadée moi que ce public existe, et ce qui me conforte dans cette idée... C'est que je participe de temps en temps à des rencontres avec des lycéens. Et on a fait l'expérience, la plupart du temps, ils étudient mes recueils. On a fait l'expérience une fois avec un roman. Et il n'y a absolument pas de comparaison, il n'y a pas photo. Ils ont réagi beaucoup mieux aux nouvelles qu'aux romans. Et ils ont pris apparemment beaucoup de plaisir à lire les nouvelles. Donc il y a... moi, le problème est plus une question de marketing, d'amener des textes à des lecteurs que ça peut toucher. Mais je reste persuadée que ce public existe.
C'est pas pour faire un duo avec Mélanie, après je me tais, mais j'ai envie de réagir sur ce qu'elle dit. Je crois que le fait qu'il soit facile d'utiliser les nouvelles à l'école pour faire travailler les élèves fait peut-être partie des raisons pour lesquelles la nouvelle est un peu dévalorisée, justement. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup de gens, on lit des nouvelles quand on est petit. Et puis quand on est grand, on passe au vrai bouquin.
D'où la question qu'on entend souvent, quand est-ce que tu vas écrire un vrai livre? C'est un classique, ça. On va laisser parler nos camarades, peut-être.
En fait, moi, je suis désolé, je ne suis pas tout à fait en accord avec mes petits camarades. Donc, Mais d'abord, parce qu'il y a plein d'endroits où publier des nouvelles en France, mais c'est chez des petits éditeurs, c'est des petites antos, mais des appels à texte, il y en a pratiquement tous les mois. Alors, c'est un peu l'inconvénient de l'appel à texte thématique. On n'a pas toujours envie d'écrire sur un thème, mais enfin, bon, ça existe. Et il y a d'autre part tout un tas de façons de publier des nouvelles dans des magazines, dans des revues, qui sont des revues de littérature générale, qui s'ouvre quand même de temps en temps au genre de littérature qu'on fait. Là, il y a le 15 juin, je le signale, il y a un numéro qui sera donné en supplément du Figaro sur le vin, parce qu'il y a une grosse exposition qui s'appelle Vinexpo, je crois, à Paris. Et ils ont demandé à 4 auteurs de science-fiction, il y a Olivier Paquet, il y a Samantha Bailly, il y a Xavier Montméjean et moi-même, d'écrire une nouvelle courte d'une douzaine de pages, une douzaine de feuillets. Dans ce numéro, il y en a 4. Bon. Moi, en ce moment, j'explore des choses avec, par exemple, la revue Air France ou la revue, un certain nombre de revues qu'on a dans les avions, dans lesquelles, justement, comme le dit Sylvie, par rapport à une heure de transport, on a le temps peut-être de lire un texte de 10 pages. Et c'est intéressant, à condition que ce soit clos. Donc, il y a tout un univers à explorer. C'est juste que il faut se dire que, bon, on écrit le texte et puis à un moment donné, on essaie de le placer. Quoi. C'est pas, il ne faut, faut pas nécessairement écrire en fonction de marché. Bon. Mais en tout cas, des endroits où on peut le faire, ça, c'est sans problème. Et le numérique permet aussi de vendre des nouvelles à l'unité à un prix, on peut par exemple les vendre à 99 centimes, ou vendre des petits recueils de 4 à 5 textes, on les vend 3 euros par exemple. Et c'est aussi un marché qui peut être intéressant parce que les gens les lisent sur leur téléphone, sur leur liseuse, sur leur tablette, rapidement. Ils ont 20 minutes, ils peuvent lire ça. Quoi. Voilà. On offre des espèces de petites bouchées gratuites. Mais il faut être créatif, il faut aller chercher. Et puis, il faut se dire aussi qu'après tout, il y a de très bons novellistes en France qui peuvent parfaitement prétendre au marché anglo-saxon, allemand, etc. Donc réfléchir à des notions de traduction, ce qui est quelquefois une chose qu'on doit gérer soi-même. Mais sur le long terme, ça donne de bons résultats.
Alors, après avoir dressé cette espèce de petit portrait de la nouvelle en France, je voulais interroger Christopher Priest sur la nouvelle dans le monde anglo-saxon. Est-ce que le monde anglo-saxon, les Anglais, les Américains, sont des gros lecteurs de nouvelles ?
I think the situation in Britain and the USA is quite similar to the situation here in France. I, from what I see of the books here and talking to writers, there isn't really much difference. I think there are degrees of emphasis. In America, you can sell a short story to New Yorker and live on it for about 10 years because they pay so much money. I have to tell you, I've never done that. There is also a very strong market in England, at least, for original anthologies, where somebody thinks up an idea for a book and then invites other writers to submit. I'm a bit cynical about those books. They seem to me to create a market rather than fulfill one. And I do tend to get the impression that the people who buy the books are either the people who have written for it or people who want to write for the next one. So, I know that sounds cynical, but I've been involved in a couple of books of that sort, and in fact, the material I've written has completely vanished. I mean, it just nobody's heard of it, nobody's read it. It's and my own personal recourse is, of course, that one day I'll do a short story collection and I can get it published there. I'd just say in passing that I think some of the finest writers in the English language have often been better in short stories than in novels. I think the obvious example is J.G. Ballard, who is known for his novels, but in fact he's underknown for his short stories. His short stories, I think, are works of art. Another writer is Brian Aldiss, whose novels, for me, I shouldn't say this in case he hears me, but I think his novels are okay, but some of his short stories are really brilliant. And moving into the mainstream, I've never really enjoyed or understood the work of James Joyce, and then I read his short stories, and they transformed me. I think there's a book of his called Dubliners, which is a collection of 12 short stories. And I think it's one of the greatest books ever written. It's fantastic stuff. So I do see short stories as a challenge. It's something I'd love to do better. And I don't honestly feel I've done it very well so far.
Je pense que la situation en Grande-Bretagne et aux États-Unis est déjà relativement similaire. Pour les deux pays, et que d'ailleurs de façon générale est également relativement similaire à ce qu'il me semble arriver en France, de ce que je vois des étals par exemple sous la bulle du livre ou de ce que j'entends en discutant avec les auteurs ici. Je crois qu'il n'y a pas tellement de différence entre tous ces marchés là. C'est un peu la même chose aux États-Unis. On peut vendre une nouvelle par exemple New Yorker et avec l'argent que ça va vous rapporter, vous avez probablement de quoi vivre pendant 10 ans. Bon, je dois vous dire que j'ai jamais réussi à placer ça. En langue anglaise, pardon, on a parfois des anthologies qui apparaissent, et je vous avoue que je suis un peu avec un appel à texte, avec un thème, par exemple, il faut écrire pour un thème. Je vous avoue que je suis un petit peu cynique sur ces livres-là, parce que j'ai l'impression que ça me semble créer un marché plutôt que de satisfaire une demande. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter des livres, ça va être principalement les gens qui ont écrit quelque chose dedans, ou ceux qui voudraient écrire quelque chose dans la prochaine. Donc, je vous avoue, oui, c'est vrai, j'avoue que je suis un peu cynique, mais c'est un peu d'expérience que j'ai écrit effectivement des nouvelles dans ces choses-là. Et ce que j'ai écrit a, pour ainsi dire, disparu. C'est-à-dire que personne ne l'a lu. Ça n'a pas du tout vécu. Et ces textes-là, bah, je pourrais évidemment en faire quelque chose pour les reprendre dans un recueil, mais c'est à peu près tout ce que je peux en faire. Cela dit, pour dire aux tribus et à de la nouvelle, je pense que parmi les meilleurs écrivains de langue anglaise étaient en général souvent des meilleurs nouvellistes que romanciers. Par exemple, J.G. Ballard, que tout le monde connaît très bien, en général on le connaît bien pour ses romans, je pense qu'on ne le connaît pas assez pour ses nouvelles qui pour moi sont de véritables œuvres d'art. Un autre auteur, Brian Aldiss, je ne devrais peut-être pas dire ça si jamais il m'entend, mais je pense que ses romans sont pas mal, mais je pense que ses nouvelles sont absolument brillantes. Et si on va dans la littérature blanche, j'ai jamais vraiment saisi le travail de James Joyce. Par contre, ses nouvelles, j'hésite pas à dire qu'elles m'ont absolument transformé. Il y a notamment un recueil, Dubliners, qui pour moi fait partie des meilleurs livres qui n'ont jamais été écrits dans la littérature tout court. Voilà. Donc en commençant, la nouvelle pour moi est un défi, un vrai défi. J'aimerais mieux réussir à le faire. Je n'ai pas l'impression d'avoir encore vraiment bien réussi comme je voudrais le faire.
En parlant de nouvelles, on a un format intermédiaire finalement entre la nouvelle et le roman qui est la novella. Est-ce que vous êtes déjà attaqué à ce format-là ou est-ce que vous auriez envie de le faire, d'aller vers la novella?
Ben moi je l'ai fait, j'aime bien. Je l'ai fait deux fois. Je pense que c'est d'ailleurs la longueur maximale que je pouvais atteindre. Ça oblige à changer de principe. La plupart du temps, quand j'écris des nouvelles, je les écris vraiment au fil de la plume, sans avoir d'idée très claire sur ce qui va se dérouler. Enfin, je sais quel est l'enjeu, je sais à peu près dans quelle situation je plonge mes personnages, mais je ne sais pas exactement comment ils vont s'en dépêtrer. Alors que à chaque fois que j'ai écrit une novella, l'opéra de Chaya est une novella qui est quand même assez longue. Là, je pense que le travail de structuration, en tout cas moi, ça m'a obligé à faire un travail de structuration, je pense aussi compliqué que celui qu'on doit faire quand on écrit un roman. C'est-à-dire, il faut découper la narration, il faut avoir des temps, des équilibres, des actes, organiser la gestion du temps à l'intérieur de l'histoire. Une nouvelle, ça se déroule, on le disait tout à l'heure, habituellement sur une période de temps très courte. Dès qu'on touche à la novella, on peut avoir le temps qui s'étire, l'histoire peut s'étaler sur des mois. Donc après, la gestion du temps de l'histoire devient quelque chose de plus complexe.
My last two novels have been ineffectual story collections. Les Insulaires consists of 53 short pieces of fiction. I would say most of them don't conform to the general idea of short stories in that they don't have plots, they are descriptive or they have moods. But there are four or five complete short stories in there, and those short stories, in effect, tell the story of the book. And my current novel, this thing here, the Adjacent, although it is a novel, and I wrote it as a novel, and I thought of it from the beginning as a novel. In fact, it takes the form of three or four parallel narratives, which could be separated out, if you like, and read independently. Although, in fact, they wouldn't mean anything. You'd have to read the others to see what the book was going to be about. It's probably best to read the book I wrote, but there are certainly self-contained stories within it.
En fait, mes deux derniers romans publiés, en réalité, ce sont finalement comme des recueils de nouvelles. Notamment Les Insulaires, en fait, c'est 53 petits fragments de narration très courtes. D'ailleurs, la plupart ne se conforment pas vraiment aux codes habituels de la nouvelle. Par exemple, il n'y a pas d'intrigue à proprement parler dans beaucoup. Par contre, on trouve évidemment de la description et surtout des humeurs. Cela dit, il y a quand même au moins 4 ou 5 qui sont des véritables nouvelles indépendante, qui d'ailleurs raconte l'histoire entière du livre. L'adjacent, donc le dernier livre publié, je l'ai écrit comme un roman, j'ai pensé dès le début, je l'ai conçu comme un roman, mais en fait il est construit de 3 ou 4 fils narratifs qui sont séparés. Et qu'on pourrait d'ailleurs lire individuellement. Bon, ça ne voudrait pas forcément dire grand-chose, parce qu'évidemment, il y a des liens et des passerelles entre tout ça. Mais en fait, ces 3-4 fils narratifs pourraient être lus finalement comme des fictions individuelles, même si, si on les sépare du tout, ça perd son sens.
Oui, il y a aussi des recueils nouvelles qui sont conçus pour être supérieurs à la somme de leur partie. Christopher Priest le sait bien, puisque son épouse Nina Allen a publié un recueil de nouvelles en France qui s'appelle Complications, qui ne veut pas dire des choses compliquées, qui parle de mécanismes d'horlogerie. Et les nouvelles se répondent, les nouvelles ensemble donnent quelque chose. Il y a aussi un livre français qui a été publié il y a quelques années, qui est absolument extraordinaire, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande, qui s'appelle « Éloge de la pièce manquante » d'un monsieur qui s'appelle René Bello, et qui est un roman dont les 15 premières pages, disons, racontent un début d'histoire. Puis ensuite, vous avez, je crois, 48 pièces qui sont des petits morceaux de texte indépendants, ceux dont parle Christopher Priest, donc des morceaux de texte tournant autour de l'histoire de Puzzle, sachant que les 15 premières pages parlent d'un meurtrier en série. Et à la fin, vous avez donc ces 48 petites pièces totalement indépendantes et qui n'ont a priori rien à voir entre elles, si ce n'est qu'elles tournent tous autour de l'idée de Puzzle. Et quand vous arrivez à la dernière partie, vous réalisez que vous êtes censé savoir qui est l'assassin. Et ça a été fait simplement parce que petit à petit, le puzzle s'est reconstitué devant vos yeux. L'auteur vous le dit, il vous dit maintenant vous savez qui est l'assassin, et l'assassin c'est moi, et vous savez de quel personnage il s'agit. Sauf que vous avez lu des petits fragments qui n'ont rigoureusement rien à voir. Et vous vous rendez compte que cette magie de l'information, cette magie de la constitution, c'est véritablement à partir de petites pièces indépendantes constituer une image plus vaste. Et ça, moi je dis chapeau à l'artiste.
Alors, la nouvelle étant un format court, ça peut être aussi un format qui permet en finalement peu de temps d'écrire des choses, d'attaquer des choses sans avoir à perdre un an, 2 ans, 3 ans sur le travail que demanderait éventuellement un roman. Est-ce que par le biais de la nouvelle, vous avez eu envie d'attaquer des genres bon, Mélanie, par exemple, je sais que toi, tu es vraiment très attachée au genre fantastique. Sylvie, bon, tu es plus ancrée sur la SF. Est-ce que vous avez eu envie de faire des choses que vous n'auriez pas faites autrement, en vous disant, voilà, je vais prendre ça comme un terrain de jeu pour m'essayer à autre chose que ce que je fais d'habitude ?
Par rapport, c'est amusant que tu me poses la question, parce que la seule fois où je me suis dit ça, c'était une anthologie dirigée par Lionel et toi, où j'avais eu la consigne qu'il fallait que ce soit de la fantaisie. Alors on avait tout le spectre de la fantaisie jusqu'à ce qu'on appelle la fantaisie urbaine, qui est très proche du fantastique, mais je n'avais pas droit au fantastique pur. Alors on a eu une discussion pour savoir où on plaçait justement la limite. La différence de définition étant là qu'il fallait que le surnaturel soit habituel pour les personnages. Il ne fallait pas jouer sur l'irruption du surnaturel inquiétant, etc. Les personnages savaient ce qui se passait. Et je me suis quand même retrouvée... Enfin, ça m'amuse parce que cette nouvelle que pour moi, j'ai conçue en me disant « Ok, on me pose un défi, ok, j'y vais à fond. » Je me suis beaucoup amusée à créer un texte qui se passe en fait dans un contexte contemporain. Donc c'est des jeunes filles dans un pensionnat, mais simplement ce pensionnat est sur une île où dort un dragon et il y a toute la civilisation est construite autour de la religion, le culte de ce dragon. Et je me suis quand même retrouvée à retomber sur finalement les approches que j'ai d'habitude, puisque pour un personnage, cet environnement est angoissant pour des raisons qui sont expliquées dans le texte. Avec quand même les retours des lecteurs ont été de dire que c'était le seul texte de fantastique du recueil, donc je ne sais pas si j'ai bien réussi. Mais ce texte-là, en fait, je ne l'aurais jamais écrit sans les contraintes que j'ai eues. Et fatalement sur une nouvelle, parce que moi j'écris pas de roman, mais oui, c'était... c'était à la fois quelque chose d'assez proche de mon univers et en même temps quelque chose que je n'aurais jamais fait sans les contraintes, et ce qui est plus facile sur un texte relativement court. Mais visiblement, les lecteurs ne l'ont pas perçu comme tel.
For me, the experiment that Sylvie was talking about was, can I write? When I started writing, all I knew was I wanted to be a writer. I didn't know if I could, and I hadn't the faintest idea how to approach a novel. And with a short story, it was achievable. It was something I could see the end of. You know, it was, as you said, it's not 5 years of your life. It's maybe 5 weeks or 5 days, and in that time, you find out what you, mostly in my case, mostly what you couldn't do. And I went from there. I did about, I think, 12 short stories before I wrote a novel. And all of those were experiments, really, to see what I could write. And I'm still waiting to find out, in fact.
Oui, pour moi, la nouvelle, en fait, effectivement, avait beaucoup cet aspect expérimental, notamment quand j'ai commencé et que je me suis dit, est-ce que je sais, est-ce que je peux écrire ? C'est pour ça que j'ai commencé par les nouvelles, parce que je savais que je voulais être écrivain, mais est-ce que j'en étais capable ? J'en avais strictement aucune idée. J'avais aucune idée de comment on attaquait l'écriture d'un roman. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est pas 1, 2, 5 ans de notre vie. Une nouvelle, je me suis dit, c'est une forme dont je peux voir la fin. En 5 jours ou 5 semaines, et puis qui va pouvoir me permettre de montrer ce que je sais faire et de ce que je ne sais pas faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par les nouvelles, avant de passer au roman, avec cet aspect expérimental, qui m'a permis de me dire, est-ce que je sais écrire ? Qu'est-ce que je sais écrire ? Et de simplement de me permettre de découvrir ça.
Oui, moi je voulais dire que si j'écris, c'est uniquement pour le plaisir de faire des expérimentations. Donc à chaque fois que j'écris une nouvelle, j'ai l'impression de faire une expérimentation tout à fait nouvelle qui me plonge complètement dans l'inconnu. Et il y a au moins 3 nouvelles que j'ai écrites que je n'aurais jamais travaillé sur des sujets pareils si ça n'avait pas été des formes courtes. J'ai écrit une nouvelle érotique, alors que je m'imagine mal essayer d'écrire un roman érotique. Mais comme expérience d'écriture, c'était pas facile et c'était très intéressant à faire. J'ai écrit une histoire du point de vue d'un extraterrestre, donc ça c'était un sacré challenge et je pense pas que j'aurais pu tenir la longueur, ni aucun lecteur non plus d'ailleurs, parce que c'est assez déroutant. Et j'ai écrit récemment une nouvelle graphique, c'est-à-dire une nouvelle dans l'univers d'un peintre, ce qui aussi est une expérience d'immersion dans l'univers d'un autre. Qui est tout à fait surprenante aussi.
Oui, c'est une question intéressante parce qu'en fait, comme le dit Sylvie, chaque texte est une expérimentation, mais il est certain qu'il y a des genres, par exemple le fantastique, que je n'ai touché que par l'intermédiaire de la nouvelle. Je n'ai pas écrit de roman fantastique. Et puis je commence depuis quelque temps à écrire des textes que je ne sais pas qualifier, tout simplement, qui se trouve, je sais pas, dans une espèce de repli en dehors de trucs. Ce n'est ni de la SF, ni du fantastique, ni de la fantaisie urbaine, ni j'en sais rien. C'est peut-être de la littérature générale, tout simplement, mais je ne sais pas où le mettre. Et il y en a une en particulier qui est parue dans une anthologie gratuite, géante, numérique, qui est téléchargeable sur le site de la librairie BD Ciné. Et franchement, je ne sais pas comment faire de cette nouvelle. Ce n'est pas de la littérature générale, je ne pense pas, mais je ne sais pas où la mettre. Et elle s'est retrouvée comme ça. Mais ça m'arrive de plus en plus et je me dis, il y a des tas de territoires dans les marges et dans les frontières où se passent les choses. J'ai toujours le sentiment que les marges et les frontières définissent en fait les espaces qu'ils entourent et donc je me dis, c'est peut-être là qu'il faut aller et c'est là que j'ai naturellement tendance à aller fureter. Donc je fais des textes proprement dans certaines catégories, c'est certain. Mais la plupart du temps, quand je me laisse aller, je vais dans les bas-fonds et à partir de là, je vois ce qu'il en sort.
Jean-Claude, you've written short stories in English, I believe.
No, not in English directly, I'm afraid.
Did you translate them yourself?
No, I didn't either. I tried, but I'm not a professional translator. Ce que je disais, c'est qu'en fait, j'ai pas écrit de nouvelles directement en anglais, j'ai pas de nouvelles que j'ai traduites moi-même en anglais. Parce que par contre, j'ai une excellente traductrice, et j'ai même plusieurs traducteurs, Jean-Louis Trudel aussi, qui m'ont traduit des textes, et j'ai eu des... You remember, I gave you two of my short stories collection, and all of them has been translated by professional translators.
I was under the impression you'd either written them in English or translated them yourself, I'm sorry.
No, I suppose I could do. I could write them directly in English, but I didn't bother so far. It's just that I'm sort of a maniac of how it sounds, how the music is put into the words. So I don't have the feeling that I could do that in English. It would be like trying to learn a new instrument, and I'm too old for that.
Oui, donc je traduis Mr. Jean-Claude Dunial, donc célèbre...
Je peux le faire avec mon français, il faut...
Donc il expliquait effectivement qu'il pourrait éventuellement écrire des textes en anglais, mais qu'il n'a pas voulu s'enquiquiner avec ça jusqu'à présent, dans la mesure où, pour lui, c'est très important, la musique des mots, que les choses tombent bien à la bonne place, et il n'est pas sûr d'obtenir le bon rendu. Ce serait comme apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Et donc, c'est pourquoi il préfère, en général, confier ce travail-là à des traducteurs professionnels qui sauront mieux.
Et j'ai dit que j'étais trop vieux pour ça. Il ne faut pas hésiter à le dire aussi.
Ah, mais non, mais je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Alors, justement, parlons des textes français traduits. Alors, je sais que Mélanie a eu quelques textes traduits. Jean-Claude aussi. Est-ce que c'est difficile de... Alors, on a cette fameuse barrière de la traduction. Est-ce que c'est difficile de publier des nouvelles à l'étranger?
Je crois que Jean-Claude en a plus d'expérience que moi. Il répondra après. Ce qui est difficile... Alors, moi, ce qui m'a surprise quand j'en ai fait l'expérience, ce qui est difficile, c'est pas du tout de publier dans les pays anglo-saxons. C'est de trouver un moyen de traduire les textes. Puisque, alors, je sais pas si c'est culturellement ou pas, le système là-bas est fait de telle manière que les textes... Ils n'ont rien contre le fait de publier des auteurs étrangers, à condition que les textes leur soient envoyés en anglais. Alors simplement, comment est-ce qu'on fait? Soit on se sent capable d'écrire ou de traduire soi-même, tout le monde n'en est pas capable, soit on trouve quelqu'un pour le faire, et alors soit on trouve quelqu'un qu'on paye pour le faire, parce que c'est un travail quand même assez conséquent, soit quelqu'un qui le fasse. Moi, en l'occurrence, plusieurs personnes m'ont donné un coup de main. Il se trouve que Chris a traduit un de mes textes qui ont été publiés... Une nouvelle qui s'appelle Élégie, qui était dans mon premier recueil. Il l'a traduite en anglais. Mais le problème... Enfin, moi, j'ai arrêté de publier en anglais parce que j'ai buté sur le problème de la traduction à un moment donné. Tout en étant intéressée de... Ça m'intéresserait de renouveler l'expérience. Mais ça demande tellement de... Enfin, un investissement en temps, en énergie et ou en argent, selon les solutions, que... Enfin, pour moi, c'était trop à un moment donné. Donc, je reprendrai ça plus tard, mais j'ai abandonné pour ça, en fait. Et alors que, justement, j'ai eu de très très bons contacts avec les éditeurs des revues ou anthologies qui m'ont encouragé à envoyer d'autres textes. Simplement, à un moment donné, je butais vraiment sur la traduction et du coup, j'ai laissé courir et je n'ai rien publié depuis 8-9 ans, je crois, en anglais. Et Jean-Claude, par contre, l'a fait de manière beaucoup plus continue.
Je voulais dire que pour les Français, paradoxalement, c'est presque le marché anglo-saxon qui est le plus difficile d'accès, parce que ça implique, comme disait Mélanie, de prendre en charge nous-mêmes la traduction ou d'avoir un éditeur qui est prêt à investir. Mais que paradoxalement, moi j'ai été contactée par... alors j'ai été publiée en Roumanie, je crois, en Hongrie, en Pologne, mais sans jamais passer par l'anglais, c'est-à-dire que dans d'autres pays... Il y a des éditeurs qui cherchent des textes et qui viennent faire leur marché. Moi, j'ai été contactée par des anthologistes et des directeurs de revues dans des festivals qui venaient avec des Français, qui leur donnaient les aider à faire leur marché. Quand on écrit des textes courts, il y a une demande pour des textes courts à l'international. Donc, voilà. Mais à ce moment-là, c'est l'éditeur dans le pays concerné qui fait la traduction depuis le français. Pour aller vers le marché anglo-saxon, ben, il faut miser sur soi-même, ce qui peut être un petit peu gênant. C'est un peu, moi, je le ressens un petit peu comme publier à compte d'auteur. C'est aussi miser sur soi-même, faire prendre en charge sa propre traduction.
Oui, moi, malheureusement, je suis, je pense, dans l'imaginaire, je dois être l'auteur le plus... publié aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon, pour une raison très simple, c'est pas parce que je suis le meilleur, c'est surtout parce que je suis le plus riche. Et je parle sérieusement, je le dis tout à fait brutalement, c'est pas que je sois le meilleur, je suis le plus riche. Donc j'ai les moyens de me payer, effectivement, des traductions faites par des bonnes personnes. Et comme le dit Mélanie, quand un éditeur de revue anglo-saxon reçoit un texte en anglais accompagné d'un mail en anglais, ça je parle suffisamment bien anglais pour le faire, ben on est un auteur comme les autres. Il prend le texte ou pas. Bon. Et quand il a commencé à, quand on a commencé à publier 2 ou 3 textes, je dirais que les soumissions sont faciles. On est un auteur anglo-saxon comme les autres. C'est juste qu'on a à se payer des traductions, quoi. Et il y a une chose qui est quand même aussi intéressante, c'est que d'abord, il faut savoir que le prix de la traduction, c'est à peu près 2 fois plus que ce qu'on vous paye pour la nouvelle. Donc c'est déjà une publication à perte. Par contre, le fait de publier aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon, mais surtout aux États-Unis, entraîne qu'on a, avec un peu de chance, une reprise chez des éditeurs autres qu'anglo-saxons, parce qu'ils ne vous liront pas en français, mais ils vous liront en anglais. Moi, j'ai eu plusieurs nouvelles reprises dans des best-of de l'année du monde anglo-saxon, le Year's Best SF de Hartwell ou celui d'Hélène Datlow et autres. Chacune de ces nouvelles a été retraduite au moins 5 à 6 fois dans d'autres pays. Bon. Donc c'est vraiment une espèce de vitrine absolument énorme. Mais il faut être clair, pour l'instant, je pense être à peu près rentré dans mes fonds depuis 20 ans que je fais ça sur les textes publiés dans le monde anglo-saxon. Mais je ne pense pas avoir gagné un centime. Mais je suis rentré dans mes fonds, ce qui était un petit peu l'objectif. Et j'ai été lu. J'ai des recueils que j'ai faits, j'ai des bouquins disponibles sur Amazon, je continue à les vendre. Et ça se vend vraiment, puisque j'en suis l'éditeur numérique. Je sais combien ils se vendent en papier et en numérique. Je reçois les relevés chaque fois. Mais il n'empêche que c'est très très difficile de faire ce saut-là quand on n'a pas ces moyens-là. Et justement, il y a un certain nombre d'auteurs en ce moment qui essayent de nous aider. Robin Hobb, pour ne citer qu'elle, est en train d'organiser en ce moment des grandes discussions sur une espèce de site qui s'appelle Reddit, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de faire des chats en direct. Et elle vient de faire une série de chats justement sur les auteurs espagnols, en prenant un certain nombre de gens. Et les prochains, nous sommes les Français. Donc elle m'a contacté déjà il y a un certain temps et elle m'a dit, on va essayer d'organiser une espèce de session dans laquelle vous, auteurs français, si vous parlez un petit peu anglais, venez vous présenter, venez parler de vos textes pour donner envie aux gens de vous lire. Et je suis en train de lui préparer une espèce de petite bibliographie de textes disponibles en anglais. Parce qu'après, c'est vrai que quand on est publié et quand les textes ont marché, vous avez des éditeurs qui vous renvoient des mails en disant, t'as rien de nouveau. Tu bosses plus, tu fais quoi? On se fait engueuler. Et à qui je dis, moi je suis un petit peu coincé parce que j'ai une traductrice qui a vachement de travail et par conséquent elle n'a pas le temps de traduire plus qu'un texte par trimestre au maximum. Et donc on n'a pas le temps, j'ai pas le temps d'en faire. J'écris plus vite qu'elle ne traduit. Donc il faudrait que je trouve d'autres traducteurs, je vais commencer à réfléchir un petit peu à cette histoire-là. Mais c'est vrai que c'est une organisation, c'est une structure. Bon, je peux le faire, ça ne me pose pas de problème. J'ai aussi l'avantage de parler anglais, donc de pouvoir communiquer avec eux, répondre aux mails, plaisanter, avoir des amis Facebook qui sont américains et échanger. Mais c'est un boulot, c'est un véritable boulot. Donc à un moment donné, on se dit, je suis bien dans ma petite mare et puis j'y reste. Or moi, ça, c'est un truc que je ne peux pas rester dans ma mare. Je sais qu'il y a d'autres pays, je vais voir dans les autres pays, je ne peux pas m'en empêcher. Et il faut savoir qu'il y a des listes de discussions où les gens, justement, essayent de s'entraider pour publier dans tous les marchés existants de nouvelles. Et vous avez des marchés de nouvelles qu'on n'imagine pas. Vous avez des nouvelles en basque, vous avez des nouvelles en breton, vous avez des nouvelles dans un certain nombre de nouvelles en swahili, des nouvelles dans des dialogues indiens. Publiées dans l'Inde, en Inde, par exemple, il y a 5 magazines importants à plusieurs dizaines de milliers de copies et avec 5 dialectes hindous différents. Donc à ce moment-là, on peut être publié dans un certain nombre de langues. Un auteur que les lecteurs de Galaxy connaissent, qui s'appelle Frank Roger, par exemple, je crois qu'il en est à 25 ou 26 langues, un truc comme ça, enfin, de publier. Et on discute entre nous, on se file les tuyaux pour dire, tiens, tel magazine accepte une soumission. C'est jamais une question d'argent, on est très rarement payé. Il faut le savoir, on est payé en exemplaires ou quelquefois on reçoit 20 euros. Mais c'est le plaisir d'être lu et d'avoir des contacts dans d'autres langues. Et ça, croyez-moi, ça entraîne quelquefois des choses extraordinaires. Vous recevez des mails, mais absolument bouleversants, de d'autres pays. Et ça, ça paye tous les efforts que vous avez faits.
Every language, every literary language has its own problems. And the English language has a unique problem called the United States of America. And this is because basically in sheer population, sheer amount of money they have, and sheer political influence throughout the world, they dominate the English language in books. It's quite difficult for a British writer, for that reason, to work in the English language. It's very difficult for a South African or an Indian or an Australian writer to write in the English language. And it's extremely difficult for somebody from New Zealand or from one of the smaller English-speaking countries to break in. So the problem is not unique to France. It's something I come across in every country I visit, the realization that the English language is a sort of clue, a key to wider recognition in the world, and it is. And having sort of said what I've said about America, the other problem in the English language is not the writers, who are in general all feel very guilty that we have the domain of the English, but it's the publishers. They will not read a manuscript that's sent to them in any language other than English. They just won't read it. So what I always say to my friends here in France and elsewhere, the way to manage it is if you have a track record, say if you're published in France and you've had novels published and you've had short stories published, is to pay for a sample of your work to be translated into English. It doesn't matter who does it, so long as it's readable. It doesn't have to be written in a great style. It needs to be something that the editors can actually read. And then if you've got the backup of reviews and publication and, you know, critical regard and people who've bought your books and liked them, then that you're already halfway through the door. And the publisher will find a way then of backing that author and paying for a proper translation, a professional translation. And if the best case is when the British and the American publishers cooperate, share the cost of the translation, and then, of course, you get American publication too. So it's a big step, but it's not impossible.
Ce que j'ai constaté, c'est que chaque langue, en fait, a ses problèmes. Et l'anglais a un problème qui est particulièrement unique dans le monde, et ce problème s'appelle les États-Unis d'Amérique. Parce qu'en raison de l'importance démographique des États-Unis, de leurs moyens financiers absolument écrasants, de leur influence politique à travers le monde, ils dominent le marché en langue anglaise. Ce qui fait que ça rend, finalement, pour un auteur de Grande-Bretagne, auteur sud-africain, auteur australien, indien, néo-zélandais, tous ces pays de langue anglaise, eh bien ça complique également le marché pour nous, pour réussir à entrer sur le marché américain. Donc je voudrais vous rassurer, le problème que rencontre la France n'est absolument pas unique, et finalement c'est un problème que je rencontre dans tous les pays que où je vais. Le problème ne vient pas des auteurs de langue anglaise, qui en général se sentent extrêmement coupables de dominer le marché tout seul, mais le problème vient des éditeurs qui refusent tout simplement de lire un manuscrit dans n'importe quel angle, n'importe quelle autre langue que l'anglais. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller et de proposer pour essayer de franchir cette barrière, si vous êtes publié en France, si vous avez un manuscrit, évidemment, c'est de ne pas l'envoyer en français parce qu'il ne sera pas lu, mais de payer pour traduire quelques chapitres. Pas forcément, peu importe à la rigueur la qualité de la traduction, ça n'a pas forcément besoin d'être un grand style. L'important, c'est que les éditeurs puissent le lire. Et si vous avez derrière vous qui vous appuie un public, des bonnes critiques, donc tout un qui montre tout ça, que vous avez véritablement un public, et ben si vous avez ça qui vous appuie et que vous pouvez réussir à le vendre, et ben quelque part vous avez peut-être fait déjà la moitié du chemin, et si c'est vraiment très bon, un éditeur trouvera et cherchera le moyen de payer pour une traduction professionnelle, en général à travers un partenariat ou peut-être un paiement à moitié-moitié entre l'éditeur anglais, l'éditeur de langue anglaise et l'éditeur français. Alors ça représente une assez grande étape, c'est un grand pas, mais c'est pas impossible.
Je regrette de le dire, Chris, mais on a essayé ça, et on l'a vraiment essayé avec les éditions J'ai lu en particulier. On a publié, ils ont fait traduire 5 ou 6 chapitres de deux des romans qu'on avait fait, qui s'étaient très bien vendus, qui avaient eu des prix, etc. Et la réponse qu'on a eue des éditeurs, Torbook en particulier, c'est un bon exemple, ça a été de nous dire, écoutez, ça a l'air vachement intéressant, est-ce que je peux lire l'ensemble ? et à qui on a dit, ben ok, mais là, ça nous demanderait 15 000 euros de traduction, combien est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait moite-moite? Et le gars a dit, écoutez, je vous promets une chose, si jamais ça me plaît, je vous paierai les 15 000 euros. Vous n'aurez pas d'avance, évidemment, mais je vous donnerai les 15 000 euros. Et on lui a dit, et si ça ne te plaît pas? Il a dit, ah, ben tant pis. Et donc, ben, on a pas fait le pari, tout simplement, ça tient à ça. Et je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, enfin, c'est effectivement un certain nombre de problèmes. De toute façon, il faut aussi se souvenir d'une chose, c'est que nous, les Français, ou les Espagnols, ou les Italiens, nous écrivons des choses différentes de ce qu'écrivent les Américains. Un auteur américain n'a lu que des auteurs américains, parce qu'aux États-Unis, il y a moins de 2% des livres qui sont des traductions étrangères de tout pays, moins de 2%, vous imaginez. Alors qu'en France, je pense que c'est beaucoup plus que ça, c'est de l'ordre de 20%. On a tous lu, dans les 6 mois qui suivent, des livres d'autres pays. Eux, jamais. Donc vous avez des auteurs qui n'ont lu que des auteurs américains, qui avaient eux-mêmes lu des auteurs américains, enfin, disons, soit à la 4e ou 5e génération. Donc quoi que ce soit d'exotique, c'est exotique. C'est-à-dire que le public cultivé peut se dire, tiens, on peut essayer, on peut manger japonais une fois pour savoir ce que c'est, même si après le poisson cru, c'est un peu bizarre. Mais le public, entre guillemets, de base, celui qui est le grand public, celui qui aide les livres à se vendre, il n'y a pas. Donc les propositions que vous avez, ce sont les presses universitaires qui vous disent, effectivement, c'est culturel, c'est bien, c'est tout à fait notre genre, mais eux, ils n'ont pas d'argent. Donc ils vous versent une avance absolument ridicule qui est le 1/10 du prix de la traduction. Et à ce moment-là, il faut se débrouiller. Donc, une solution, c'est soit de passer, par exemple, par un fonds d'aide qui est un fonds créé par le ministère des Affaires étrangères ou par l'Europe. L'Europe ne permet pas de faire des traductions vers l'anglais, par exemple, mais elle permet de faire des traductions vers d'autres langues européennes. Et moi-même, qui ai la chance d'être expert européen, pour être tout à fait franc, je sais monter ce genre de dossier, donc j'en ai profité. J'ai eu 2 bouquins publiés en Hongrie et un autre en Bulgarie, dans lequel l'éditeur hongrois ou bulgare a eu pratiquement sa traduction payée par l'Europe. Donc, dans ces conditions-là, ça les intéressait de publier un bouquin qui semblait avoir bien marché en France.
Je pense que ça nous servira de conclusion parce qu'on a dépassé le temps imparti, mais bon, en même temps, on a commencé un petit peu en retard. Donc merci aux auteurs. J'espère que leurs propos vous ont intéressé, que vous en savez un petit peu plus sur la nouvelle. Donc, vous pourrez les retrouver en dédicace à la Bulle du Livre, peut-être maintenant ou en tout cas, sinon demain. Donc, merci beaucoup pour votre attention et merci aux auteurs présents.